jeudi 30 novembre 2023, il est 17h. Tout de suite, le journal en français du studio Kalangou. Rafika Taher au micro. À la une, la 10e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse est célébrée ce 30 novembre avec pour thème « Médias, démocratie et crise institutionnelle ». Les détails dans un instant. Le Conseil régional d'Agadez salue l'abrogation de la loi 2015-036 sur la migration irrégulière. À suivre sa réaction dans ce journal. La COP28 débute aujourd'hui à Dubaï. La partie magazine de ce soir va porter sur les attentes de l'Afrique à la fin de la rencontre. Bonsoir à tous. Le Niger a célébré ce 30 novembre la 10e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse à la Maison de la presse à Niamey. Le thème retenu est « Médias, démocratie et crise institutionnelle ». Écoutons Ibrahim Harouna, président de la Maison de la presse sur la situation des journalistes au Niger, dans des propos recueillis par Amadou Harouna Jibo Ismail.
La 10e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse que nous célébrons ce jour est la toute dernière qu'organise le bureau du conseil d'administration actuel de la Maison de la presse qui arrive à son terme de mandat en décembre de cette année. La Journée nationale de la liberté de la presse intervient cette année dans un contexte sociopolitique particulier, marqué par l'interruption du processus démocratique consécutif au coup d'état militaire du 26 juillet dernier. Une mise en parenthèse de l'ordre constitutionnel qui n'a pas été sans conséquence sur le libre exercice du métier du journaliste. En effet, il a été relevé quelques jours seulement après les événements du 26 juillet dernier des entraves à la liberté de la presse en dépit des engagements pris par le CNSP dans sa toute première déclaration de prise de pouvoir de respecter tous les instruments juridiques internationaux relatifs au respect des droits humains ratifiés par le Niger, y compris ceux relatifs à la liberté de la presse. Les médias doivent fonctionner comme un éducateur collectif, contribuer à la formation culturelle et intellectuelle des populations et participer au développement de la conscience citoyenne des individus.
Quant au ministre de la Communication, dans son discours, a indiqué que la presse nigérienne, depuis le 26 juillet, n'est plus téléguidée. Elle a la liberté de ton et traite des sujets selon les principes de l'indépendance et de l'équilibre, selon le ministre. Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, également au micro de Amadou Haroune Djibo Ismail.
Vous avez choisi comme thématique centrale médias et démocratie. Cette thématique n'est pas le choix du hasard. Révèle aujourd'hui d'une grande actualité au Niger. En effet, elle place les médias devant leurs responsabilités, ainsi que les rôles majeurs qu'ils sont appelés à jouer dans l'accompagnement des actions nobles que mène le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est dans cette optique que la presse, jadis téléguidée, a aujourd'hui retrouvé ses lettres de noblesse, caractérisées par la liberté de ton, l'indépendance dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, conférant ainsi aux médias leur professionnalisme d'antan. Pour renforcer cet élan retrouvé par la presse nationale, le soin est laissé à la libre discrétion du journaliste pour en faire un traitement selon l'angle qu'il aura lui-même choisi. Nous avons aussi constaté que depuis le 26 juillet 2023, pour la plupart, les médias nigériens dans le traitement de l'information respectent les principes d'objectivité, d'équilibre, d'équité et de pluralisme.
La décision de l'abrogation de la loi 2015-036 prise le 25 novembre par le président du CNSP, le général de brigade Abdrahmane Tchiani, a été saluée par les autorités régionales d'Agadez. Selon Efad Hamado, premier vice-président du conseil régional d'Agadez, cette loi a été la source de l'insécurité de la région. C'est le moment où les acteurs de la migration doivent se réorganiser pour bénéficier de cette activité. Il est au micro de Moussa Maman.
C'est une satisfaction totale. Les CNSP et leur gouvernement ont pu quand même faire en sorte d'abroger cette loi. Parce que cette loi, nous au niveau de la Gadez, elle nous a amené plus de problèmes qu'avant. Parce qu'il y a eu vraiment une insécurité totale à travers les axes de contournement. Parce qu'au tout début, les gens passaient ici par les gares, les gens étaient enregistrés, on savait qui sort, qui est arrivé, qui ne l'est pas. Mais avec le contournement, cette loi-là, quand elle était venue, il y a eu des axes où du Nigeria même on peut directement piquer sans passer par les grands centres de contrôle. C'est le moment, en tout cas, que ces jeunes-là s'y réorganisent pour faire en sorte que cette activité, en tout cas, leur serve à quelque chose, de s'organiser pour que l'État, les autorités puissent contrôler les trafics, mais aussi aujourd'hui, ils aussi passent par les grands axes de contrôle où aujourd'hui rien ne peut les arrêter.
Après l'abrogation de la loi anti-migration, les acteurs d'Agadez qui ont fait de cette activité leur gagne-pain quotidien se réjouissent aussi de cette décision des nouvelles autorités. Selon eux, cette loi a mis à terre l'économie de la région. Toutefois, il faut prendre des mesures sécuritaires pour mener à bien cette activité, estime Amadou Marou, secrétaire général des ex-prestataires de la migration, au micro d'Anissé Karim.
Nous sommes très contents, la population d'Agadez et les ex-prestataires, c'est des sourires aux lèvres. Parce que c'est une loi d'abord qui a fracturé la région d'Agadez. Beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Agadez, d'abord, c'est le transport général qui est une activité principale qui a boosté l'économie de la région à l'époque. Et que maintenant, aujourd'hui, on nous a dit que cette loi a été abrogée. Vraiment, nous sommes très contents. Et nous tenons à remercier également tous ceux qui ont contribué pour l'abrogation de cette loi. Nous plaidons à ce que ça soit organisé. Il faut que les gens reviennent au niveau de l'autogare, ils auront une feuille de route et cette feuille de route, il y a les autorités administratives qui vont mettre leur cachet, ils vont payer leurs taxes et ils vont continuer à destination. Il ne faut pas que ça soit une débandade, il faut que ça soit dans les normes pour que les gens là arrivent à destination où ils ont payé. Il ne faut pas que ça soit un désordre.
À Gaya, une séance de sensibilisation a eu lieu devant la cour du chef de canton. L'initiative visait à conscientiser la population sur les violences basées sur le genre, le mariage forcé, ainsi que d'autres violations des droits des femmes. Les chefs de ménage, les chefs de quartier et les femmes ont été conviés à cette sensibilisation. Madame Halima Ibrahim, communicatrice de l'hôpital du district de Gaya et organisatrice de la séance, donne des précisions au micro de Fadel Alou.
Les violences basées sur le genre, c'est un sujet partout. Donc, nous avons pris juste accès sur lesquels nous avons échangé avec la population. Nous avons parlé en premier lieu du mariage d'enfants, du mariage forcé. En deuxième lieu, le déni des ressources. En troisième lieu, les violences conjugales pour finir avec les relations sexuelles. Et vraiment, la population a été sortie puisque c'est sûr d'une chose pour les populations dans les Suisses et le sait à quel ça se confie. Au cours de nos échanges avec la population, nous avons compris que vraiment, ils ne soient pas d'informations puisque tout ce que nous avons eu à dire durant notre échange avec cette population, ce sont des choses pour cette population dans les Suisses.
Une semaine après l'attaque de la ville de Damana, le chef-lieu de la commune rurale de Tandikandia par des individus armés, la peur est toujours présente dans l'esprit des populations. Selon les autorités, l'attaque qui a fait 4 morts parmi les assaillants et un civil a affecté le quotidien des habitants. Issa Nuhu, maire de la commune rurale de Tandikandia, au micro de Hassan Momouni.
Cette attaque a augmenté la psychose au sein des populations. Les jeunes maintenant ont peur. L'inquiétude se lit sur tous les visages. Et face à cette situation, nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Il n'y a aucune animation dans la ville. Chacun est tiré chez lui pour ne pas sortir et rencontrer ses assaillants. Vraiment, ces derniers jours, nous vivons dans la crainte. Toute la semaine est dominée par une tristesse ambiante. Aujourd'hui, tous les habitants de Damana sont dans la peur et une grande inquiétude. Aussi, nous implorons la grâce de Dieu et de tranquillité ici et sur toute l'étendue du territoire du Niger.
Cette année, dans le département de Mene-Soroa, notamment la commune rurale de Fulatari, une commune à vocation pastorale, les éleveurs se plaignent du manque du fourrage dans certaines zones de la commune. C'est pourquoi ils sollicitent l'appui d'urgence du gouvernement pour prévenir la situation. Halil Youra, un éleveur de Fulatari, explique la situation au micro de Maman Idrissa.
Le fourrage manque cette année. Quand on prend de Waniyaro jusqu'à Zormodo, il n'y a pas assez de fourrage. À partir d'ici jusqu'à Boula, il n'y a pratiquement rien. C'est au-delà de Boula qu'on peut voir un peu d'herbe. Cette année, c'est très difficile pour les éleveurs. Il faut que l'État aide les éleveurs par la vente à prix modéré des aliments bétail et des vivres pour les personnes, car les champs aussi n'ont rien donné cette année. L'État doit reprendre l'opération de vente à prix modéré des vivres et aliments bétail et aussi rapprocher les points de vente pour les éleveurs. Cela leur permettra de bien nourrir leur.
En prélude à la journée internationale de lutte contre le sida, demain 1er décembre, le bureau régional ONU Sida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a présenté hier le rapport mondial intitulé « Pour mettre fin au sida, confiant le leadership aux communautés ». À travers ce rapport, ONU Sida met en lumière le rôle essentiel joué par les communautés, mais aussi la manière dont les sous-financements ont entravé les progrès pour éradiquer cette maladie. La commission compétition de la Fédération nigérienne de football a procédé hier mercredi au tirage au sort de la Ligue nationale édition 2023-2024. 10 équipes de chaque poule A et B s'affronteront en aller et retour. Les deux classés de la première à la première place accéderont à la Super League. La 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU COP28 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. Cette rencontre vise à résoudre la crise climatique en s'accordant sur les moyens de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'opérationnalisation du fonds de financement des pertes et dommages et le transfert des technologies sont les principales attentes de l'Afrique de cette COP selon les acteurs de l'environnement. Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Niger, explique au micro de Assoumane China dans la partie magazine.
Pour notre continent, le plus important, c'est la question des pertes et dommages causés par le changement climatique. L'année dernière, à la COP27 en Égypte, nous avons obtenu un accord sur la mise en place d'un fonds dédié au financement des pertes et dommages. Donc, l'enjeu principal à cette COP, c'est de pouvoir déterminer clairement les mécanismes visant son opérationnalisation. Puisque c'est un fonds d'urgence, on ne peut pas attendre encore plus longtemps, continuer à négocier. Maintenant, l'autre question importante, c'est la question du transfert des technologies. Aujourd'hui, l'Afrique mérite le développement. L'Afrique a des matières premières. Si on n'aide pas l'Afrique à se développer d'une manière sobre en carbone, en transférant les technologies, l'Afrique peut être tentée aussi d'emprunter le même chemin qui nous a conduit vers ces changements climatiques, c'est-à-dire l'utilisation abusive des énergies fossiles. C'est-à-dire que l'engagement qui a été pris par les patients en termes financiers, qui n'est toujours pas respecté, c'est les 100 milliards de dollars par an à partir de 2019 qui n'est pas respecté. Il faudrait que à cette COP qu'on ait de la mobilisation, que ça ne soit pas une COP de plus aussi en termes d'engagement.
Selon vous, qu'est-ce qui a jusqu'à aujourd'hui bloqué ces financements pour mettre en œuvre les accords de Paris?
Je pense que c'est une question premièrement de volonté politique, parce qu'aujourd'hui, quand ce soit les sociétés civiles au niveau mondial, africaines, européennes, asiatiques, américaines, se sont tous mobilisés pour dire qu'il est important qu'il y ait ce respect des engagements en termes de financement. La science aussi a parlé, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a sonné l'alarme pour dire que si rien n'est fait, nous tendons vers un point de non-retour.
Qu'est-ce que vous, en tant que société civile, vous allez apporter à cette COP pour défendre et comment le faire?
Nous avons au préalable fait des rencontres pré-COP ici au Niger et dans d'autres pays pour avoir des positions communes. Donc nous allons défendre ces positions qui vont dans l'intérêt, en tout cas qui répondent aux besoins des plus vulnérables, qui sont les enfants, les jeunes, les femmes et les communautés locales, les communautés autochtones. Mais également, nous allons partager aussi notre expérience des solutions que nous portons, telles que l'agroécologie et beaucoup de solutions que nous mettons en œuvre avec des communautés via nos projets de développement ou de renforcement de résilience qui peuvent inspirer ou impacter d'autres communautés et apprendre des autres aussi.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Après les journaux en langue nationale, écoutez le forum sur la prise en charge et l'intégration des personnes handicapées dans la société en ma compagnie. Bonne réception.
Écoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce Airtel gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.